deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à Oscar Wilde sur France Culture. Et pour l'ouvrir, cette seconde partie, eh bien, un passage de cette pièce dont on a parlé déjà avec Charles Danzig, car il l'a traduite, L'importance d'être constant. Ici, non pas dans sa traduction, car cet extrait date de 1954, mais dans une interprétation de Jean Poiret et Madeleine Barbulé.
Vous avez toujours exercé sur moi une véritable fascination.
Ah bon, vraiment?
Ah
bon?
Oh, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Worthing, que nous vivons dans un siècle idéaliste. C'est un fait constaté chaque jour dans les journaux. Et mon idéal a toujours été d'aimer un homme prénommé Constant.
Ah,
il y a quelque chose dans ce nom qui m'incite à l'abandon, à la confiance.
Ah.
Dès qu'Algernon m'a appris qu'il avait un ami nommé Constant, j'ai su que je devais fatalement vous aimer.
Mais voulez-vous dire que... vous m'aimez réellement?
Irréellement. Passionnément.
Oh, chérie, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis heureux.
Je m'en doute.
Mais si mon prénom n'était pas Constant, vous m'aimeriez de la même façon, n'est-ce pas?
Vous vous appelez bien Constant.
Mais bien sûr, je m'appelle Constant, mais je veux dire, en supposant que ce ne soit pas Constant, vous m'aimeriez de la même façon.
Enfin, Oh mon chéri, mais pourquoi vous perdre dans des spéculations métaphysiques qui n'ont... comme chacun sait, aucun rapport avec la réalité.
Non, pour vous parler franchement, j'ai jamais beaucoup aimé mon prénom. Je crois qu'il ne me va pas du tout.
Oh, comment il vous va à ravir? C'est le plus joli prénom du monde.
Ah oui?
Il a une musique propre, il émet des vibrations.
Oui, en effet, il émet des vibrations. Mais il me semble, Gwendoline, chérie, qu'il y a des tas de noms, enfin, beaucoup plus poétiques. Je sais pas, moi, Jack, par exemple.
Oh.
Par exemple, Jack, c'est ravissant.
Oh, Jack, quelle horreur.
Hein?
Oh, non, surtout pas Jack.
Hein?
Non. Mais non, c'est un prénom commun, atone, sans résonance.
Ah oui?
Ah oui, tandis que Constant. J'ai connu énormément de Jack. Eh bien, ils étaient tous plus laids que la moyenne, sans exception.
Ah bon?
En outre, Jack est le diminutif de John. Je plains une femme mariée à un John. Non, le seul prénom vraiment rassurant, c'est Constant.
Formidable passage tout de même, Charles Danzig, de cette pièce. Vous vous souvenez d'avoir traduit ce moment-là? Vous l'avez traduit très différemment?
Non, probablement pas. Je ne me rappelle pas très bien. Je voulais d'ailleurs en profiter pour dire que tout à l'heure, quand je disais que j'avais remarqué les défauts de Wilde en le traduisant, je voulais dire aussi, je voudrais préciser que ce qui se passe avec un grand écrivain, c'est que les passages merveilleux, on ne sait pas comment c'est fait. On a beau traduire, on a beau être dans le cœur du texte, eh bien ça reste, il y a quelque chose de miraculeux, et il y a ça dans l'importance d'être constant. Cet aspect miraculeux, on ne sait pas comment c'est fait. Ça ne s'explique pas par de la mécanique. Et à propos de, en écoutant cet extrait, à propos du prénom Constant et de tout ce dialogue sur « il importe d'être constant », comme nous savons, le mot anglais est « earnest », c'est-à-dire « ça veut dire sérieux ». Mais la traduction de Constant est bonne. Il y a eu d'autres...
Ça a toujours été cette traduction-là?
Non. Jean Anouilh a fait une traduction de l'importance d'être constant, et par son esprit réactionnaire et paradoxal, qui n'était jamais content de ce qui se passait, il a voulu changer le prénom et il a choisi « aimer ». Il importe d'être aimé, et ça ne marche pas du tout.
Ça change quand même beaucoup de choses.
Ça change beaucoup de choses et ça ne va pas du tout. Et en écoutant ce passage, je me proposais une nouvelle interprétation. Ça veut peut-être dire constant, earnest. Mon prénom, constant, il importe d'être constant. Ça veut peut-être dire il importe d'être hétéro. Et c'est un jeu...
Ce n'est pas un prénom, alors ça ne marcherait pas pour la
traduction.
Non,
mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un jeu, là aussi, sur les masques, ce qu'on cache, ce qu'on ne dit pas, ça n'est pas son vrai prénom, ça n'est pas sa vraie sexualité. Et c'est une interprétation à laquelle je pense à l'instant, qui est peut-être fausse, mais qui est assez intéressante. On pourrait interpréter tout le personnage et le faire jouer comme s'il était comme Wilde, avec une apparence de folle perdue, et les filles lui parleraient comme s'il était hétéro, et ça voudrait dire « il importe d'être hétéro, d'avoir l'air ».
Comme quoi on n'a pas fini, même quand on a traduit une pièce, de la comprendre à chaque fois de nouvelles manières.
C'est grâce à vous.
Est-ce qu'elle est jouée souvent en France, cette pièce, l'importance d'être constant, Charles Danzig?
Elle est jouée assez souvent. Ce qui est assez amusant, c'est que la postérité de Wilde a été tardive en France. C'est-à-dire qu'il est venu en France très vite, puisque c'était un... On en parlera peut-être tout à l'heure. Il a passé un très long temps sans être joué. Et la reprise qui a relancé Wilde, c'était Un mari idéal dans les années 80. Et je me souviens d'ailleurs qu'un ami anglais qui était journaliste ici, aussi me racontait avec beaucoup d'amusement qu'il avait reçu un coup de fil d'un producteur de théâtre américain de Broadway qui lui avait dit « Ah, il y a un type qui marche très bien à Paris, il a une pièce qui s'appelle Un mari idéal, tu pourrais me la traduire ». C'était une histoire de producteur assez amusante. Mais depuis, l'importance d'être constant est très, très souvent montée. Ce qui est assez amusant là, c'est qu'on a mis Poiret. Ça veut dire que la pièce a longtemps été considérée comme une pièce de boulevard. Moi, j'ai rien contre le boulevard, mais j'ai rien de très pour non
c'est
plus.
Quand même
c'est
une
beaucoup
comédie.
Mieux que ça. Oui, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui se rapproche beaucoup plus de une pièce de Shakespeare comme la Comédie des Erreurs, par exemple, avec des croisements de personnages où il y a quatre personnages dont on ne comprend jamais ce qu'ils font. C'est beaucoup plus spirituel et fin qu'une comédie de boulevard où on claque des portes.
Mmh. En tous les cas, qu'il soit joué beaucoup ou pas en France, on peut imaginez que le rapport de Wilde avec la France étant ce qu'il est, c'est-à-dire très proche, il y aurait eu dans notre pays une volonté quand même de le jouer beaucoup. On peut dire que Oscar Wilde a choisi la France. Est-ce qu'on peut dire que la France a rendu à Oscar Wilde, quand même sa tombe est au Père-Lachaise, enfin, est-ce qu'on peut dire que la France a rendu à Oscar Wilde ce que lui avait donné?
Pas tout à fait, mais elle ne s'est pas si mal tenu que ça. C'est-à-dire que d'abord, Wilde venait comme fils de famille irlandais, sa mère l'a... Ah, je peux dire une chose sur sa mère, Mathieu. Je pense que j'oubliais de dire ça tout à l'heure, qui est très important, c'est que je pense qu'une des causes des erreurs et du comportement de Wilde vient de ce qu'il a été trop aimé par sa mère. Les enfants adorés par leur mère ont un sentiment d'impunité vis-à-vis de la société qui est considérable. Je pense que ça fait faire des bêtises. Bref, sa mère...
Qu'est-ce qui vous fait penser à ça
Eh bien, parce que j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais qu'une des causes du comportement aberrant de Wilde, de se penser impuni, on se sent impuni quand votre mère vous aime trop. Et ça, c'est une chose qui détruit les enfants pour la vie.
C'est une analyse psychanalytique ou pas?
C'est une analyse peut-être fausse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pensais à ça. Vous savez, c'était une grande emmerdeuse, Lady Speranza, c'était le nom sous lequel elle signait ses poèmes, qui avait décidé que son fils était prodigieux et elle le considérait comme un dieu et lui a fini par se considérer comme ça. Toujours est-il qu'elle l'a amené à Paris comme fils de famille très vite. Il est venu tous les ans au moins une fois par an à Paris. Il parlait le français. Il a écrit en français sa pièce Salomé avec l'aide de Pierre Louis. Il a été fêté relativement vite. Il n'a pas été populaire, il n'était pas connu par le grand public, mais il y a eu un article dans le Figaro en tout à sa gloire alors qu'il était assez jeune. Et puis, il venait, on le voit dans le journal des Goncourt, enfin, il fréquentait...
Les Goncourt que vous n'aimez pas tellement, hein. Cette folle amère et corsetée d'Edmond de Goncourt qui n'a pas signé la pétition pour aider Oscar Wilde à sortir de prison. Ça, c'est une citation de vous, cette folle amère et corsetée.
On fera un jour, peut-être, Mathieu Garrigou-Lagrange, une émission sur les écrivains réalistes de cette époque-là et comment... À mon avis, ils ont été les premiers à préparer le fascisme des années 30. C'est une idée que j'ai. C'était des affreuses personnes, les Goncourt, très méchants, antisémites, homophobes, odieux. Leur journal est rempli de ça. Ça n'est pas un mystère, ce que je raconte. Et d'ailleurs, la façon dont ils parlent de Wilde dans leur journal est très méprisante. Moyennant quoi, Edmond Goncourt était, à mon avis, une folle perdue qui était corsetée, comme je le dis, et qui était d'autant plus homophobe. Bref, au moment du procès, la France ne s'est pas mal tenu, c'est-à-dire qu'évidemment, à Londres, il a été abandonné immédiatement, ses pièces ont été retirées de l'affiche, on a été obligé, il y a eu une vente forcée de ses biens pour payer les frais du procès.
Ce qui est assez terrible, ça, y compris des affaires auxquelles il tenait particulièrement.
Évidemment, atroce. Et en France, une pétition a été organisée, la France était quand même un peu plus libérale, évidemment, l'homosexualité était interdite, mais c'était moins scandaleux qu'à Londres, et une pétition a été organisée par Stuart Merrill, qui était américain, devenu français, et poète, un bon poète symboliste, d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Paul Fort, il cite Madame Merrill, la veuve de Merrill, à l'enterrement, ou la femme de Merrill. Et Stuart Merrill a organisé une pétition en 95. Il est allé voir tous les écrivains français pour proposer qu'on fasse une pétition qu'on remettrait au gouvernement anglais. Et là, c'est là que les écrivains français ont commencé à mal se tenir. Il est allé voir les plus connus, donc Goncourt, comme vous citiez, qui a refusé de signer. Il est allé voir Victorien Sardou, le très élégant auteur de Madame Sans Gêne, qui se permettait d'avoir des jugements moraux. qui a dit que...
C'est une boue trop immonde pour que je m'en mêle de quelque façon que ce soit, aurait-il
voilà,
dit.
Voilà, exactement. C'est ce qu'il a dit. Tout ça a été rapporté par Stuart Merrill après dans la Vogue. François Copé, le poète misérabiliste qui l'avait rendu milliardaire comme Houellebecq et à l'Académie française, a répondu d'une manière qu'il croyait spirituelle, qu'il signerait, mais au titre de la SPA, parce que c'était des mœurs d'animaux. Maurice Barrès, qui commençait déjà à quitter. Barrès, c'était intéressant parce qu'il avait commencé du côté dandy, décadent, et puis il avait honte de ça, il se reprenait, il allait vers le nationalisme le plus dur, il a refusé aussi de manière très mufle. Et donc, la plupart des écrivains français connus sont mal tenus. Les seuls qui ont été bien, mais certains ont été bien, Octave Mirbeau, comme toujours, a écrit un article merveilleux de soutien à Oscar Wilde en disant qu'on le traitait fort mal. Maurice Donnet, qui est devenu connu après, qui n'était pas très connu à ce moment-là, a signé. Un autre écrivain qui était Hugues Rebelle, qui était le traducteur français d'Intention dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un merveilleux article où il disait « Prenons les armes et allons libérer Wilde à la geôle de Reading ». Zola s'est tenu de manière un peu plus ambiguë, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si on lui a proposé de signer, mais en tout cas, il n'a rien dit de positif. Zola était... Je pense que Zola ne pouvait pas attaquer sur tous les fronts, quoi. Il défendait les Juifs, il ne pouvait pas en plus défendre les homosexuels. Mais il avait publié, Zola, quelque temps avant ou après, je ne me rappelle plus, les confessions d'un homosexuel italien qui lui avait été envoyé par cet homosexuel italien. Et il l'avait fait publier par un ami médecin. C'est pour revenir sur le côté médical des choses qui sortait à ce moment-là. Et Zola, n'avait pas de jugement très moral sur la chose, sauf qu'il trouvait que l'homosexualité était un désastre pour la famille.
Alors que Wilde avait quand même
une femme et des enfants. Exactement. Et donc la France, et à ce moment-là, évidemment, le cher Figaro, la presse est en scalée, c'est-à-dire que la presse est très souvent l'enregistrement des applaudissements extérieurs. Quand Wilde était applaudi, elle a fait, quelques années avant, le Figaro avait fait un article d'éloge, et là, le Figaro a fait un article infect pour se moquer de lui. Et puis, comme on sait, Wilde est revenu mourir en France, il a passé quelques temps à Dieppe, et il y a une chose très déchirante qui s'est passée quand il est arrivé à Paris. Il a vu André Gide, qu'il connaissait. Lequel Gide, d'ailleurs,
qui était beaucoup plus jeune.
Qui était plus jeune. Il a d'ailleurs écrit après un petit livre qui s'appelait In Memoriam, c'est l'auto qui s'appelait Oscar Wilde, sur ses souvenirs de Wilde. Et il le voit, je crois que c'était à la terrasse du Café de la Paix. Gide, tout de même, s'approche. Gide n'était pas un salaud. Il s'approche, et c'est d'ailleurs Gide, qui était très honnête, qui le raconte lui-même. Quand il a vu que c'était Wilde, pour éviter qu'on le voie à côté de lui, il s'est tourné, il s'est assis en face de Wilde pour que les gens qui passent dans la rue de dos ne le reconnaissent pas. Et Wilde a très bien compris, a été très très bouleversé par ça. C'est-à-dire,
c'est là qu'il dit, mais non, installez-vous plutôt face, qu'on puisse... Alors il ne dit pas pour qu'on puisse vous voir, mais vous serez mieux.
Voilà. Et ça vous dit la somme considérable, perpétuel et d'humiliation qu'a subi Wilde. C'est-à-dire que sorti de prison, il devait subir ça encore. C'était un véritable paria.
Et qu'est-ce que Gide alors disait de sa littérature, de la littérature d'Oscar Wilde?
Gide était un peu trop chafouin pour être très, très affectueux envers Oscar Wilde. Il a cru une chose que lui a dit Oscar Wilde parce que ça l'a arrangé. Ça, il le raconte dans son petit livre. Wilde, un jour, a dit, avant son procès et avant sa chute, a dit à Wilde, j'ai mis tout mon génie dans ma vie et pas dans mes livres. Et ça, Gide l'a répété, écrit, évidemment. Avec beaucoup de plaisir. Ça rend tellement service qu'un confrère vous dise ça, que Gide s'est empressé de répéter une chose pareille. Mais en même temps, Gide était homosexuel, enfin disons-le comme ça, mais il était protestant, il voulait faire une carrière d'homme moral qu'il était aussi, il ne pouvait pas comprendre le comportement d'Oscar Wilde. Je vais vous en donner un autre exemple par l'exemple de Cocteau, ça s'est raconté par Truman Capote. Qui les a vus un jour à Tanger. Et Gide était assis sur une murette avec sa cape de chevrier, comme ça, en train de lorgner les petits garçons arabes qui jouaient au football. Et puis Cocteau était là par hasard, il vient le voir, il le reconnaît, il lui parle. Et Cocteau, évidemment, comme partout, Cocteau était dans une grotte avec des pithécanthropes, il aurait fait des mots d'esprit, des poésies, il aurait été exquis, charmant. Il fait ça à Gide, Gide lui répond, taisez-vous, vous dérangez le paysage. visage. Eh bien, c'est tout à fait le genre de choses qu'il aurait pu dire à Oscar Wilde. Il ne pouvait pas tout à fait admettre des gens comme ça.
Le 14 février 1995, on est 100 ans après le succès de ces deux pièces, L'importance d'être constant et Un mari idéal. Et en Angleterre, on réhabilite finalement Oscar Wilde par le dévoilement d'une plaque dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster. Qu'est-ce que lui doit la littérature britannique? Qu'est-ce que doit à Oscar Wilde la Grande-Bretagne au fond?
Eh bien, elle lui doit tout. Elle lui doit la révélation de son hypocrisie pendant toute l'ère victorienne. Donc, au moins, ça l'a obligée à être franche. Vous savez, aucun pays n'a de reconnaissance envers les écrivains. Malherbe nous l'a dit il y a bien longtemps quand il a dit « Un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles ». Et au fond, l'Angleterre s'en fiche.
Mais vous croyez que les écrivains anglais sont dans un sillage qui serait celui d'Oscar Wilde pour un certain nombre d'entre eux?
Non, pas tellement.
Parce qu'on a l'impression que finalement, en France, quasiment, qu'il est davantage révéré que de l'autre côté de la Manche.
Je pense que vous avez raison. D'une part, il n'est pas si anglais que ça, encore une fois. Il est irlandais, il ne faut pas oublier ça. Il est irlandais. Il a moins d'influence, et d'ailleurs, quand on pense aux écrivains homosexuels contemporains, aux écrivains qui se trouvent être homosexuels contemporains, ils ne sont pas du tout dans cette lignée-là, mais Wilde a quelque chose d'extrêmement hors du temps, même dans son temps, c'est-à-dire Wilde est, si je peux faire un peu de littérature comparée, est un écrivain de la restauration anglaise. Il y a une époque de la restauration anglaise où on écrivait beaucoup de ce qu'on a appelé des restoration comedies, qui étaient des comédies de la restauration, où il y avait beaucoup, c'était vers 1700 comme ça, où il y avait des auteurs comme Congreve, qu'on ne connaît pas du tout en France et qui ressemblent beaucoup à ça. Eh bien, Wilde lui-même était très démodé à une certaine époque. C'est une espèce d'apax comme ça, Oscar Wilde, qui ne ressemble à rien d'anglais réellement.
Merci beaucoup, Charles Dantzig. On termine sur cette question de la postérité.